Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, where the blue or gray be her skies, where the loud be her cheers, or where the soft be her tears, more and more, do I
C'est parti. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce 23e épisode de Popol. Et pour ce 23e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Henoch. Bonjour Audrey.
Bonjour Léa, Gabrielle et Aurélie.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Audrey?
Oui, donc moi je suis une nouvelle élue en tant que première adjointe à la ville de Lyon, en charge des finances et de la commande publique. Donc dans une équipe écologiste qui est en majorité avec les socialistes et Lyon en commun. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure que j'ai rejoint il y a quelques mois au début de la campagne électorale. Je ne suis pas affiliée à un parti, même si évidemment je collabore énormément avec les partis écologistes. Et puis sinon, avant, je suis administratrice territoriale de métier. Et donc, j'ai été cadre dans plusieurs collectivités locales autour de Lyon sur différentes politiques publiques. Et puis sinon, j'habite Lyon, je suis impliquée dans mon quartier, puis je suis maman de deux enfants.
Super, merci beaucoup Audrey. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Gabrielle Siri-Ouari. Bonjour Gabrielle.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, bonjour à toutes.
Salut, salut. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis nouvelle élue. Donc ça date des dernières municipales et je suis adjointe en charge de la vie étudiante, du développement économique et de l'emploi au sein de la mairie du 18e arrondissement de Paris. Par ailleurs, je suis aussi porte-parole du Parti Socialiste, donc toujours en politique, et je travaille donc à côté dans une institution publique de politique économique. Et je suis en particulier spécialisée sur la finance durable. Voilà.
Mais tu es enseignante aussi.
Ah oui, oui, tout à fait. Je suis enseignante. Oui, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je donne des cours d'économie de la zone euro à Paris Dauphine également. Tout à fait.
Super, merci beaucoup. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurélie Salvert. Bonjour Aurélie.
Bonjour Léa et bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Ça va bien, ça va très bien. Je suis basée en Espagne où il fait soleil et on a moins de confinement qu'en France. Ça va.
Cool, génial. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en Espagne déjà? Et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Écoute, je fais pas mal de choses, mais je me dédie surtout au thème de diversité et inclusion et de représentation. Donc, j'ai une organisation qui s'appelle Shift Balance et qui travaille sur l'empouvoirment, comme on dit en français, ou l'empowerment des femmes et des minorités dans les espaces de pouvoir. Voilà.
Génial, merci beaucoup. Bon, c'est génial de vous recevoir toutes les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler des élections régionales et départementales, et après nous parlons de la réunion des gauches. Est-ce que ça vous convient comme programme? Je me lance pour le premier thème, élections régionales et départementales. Les élections régionales et départementales devaient initialement se tenir en mars, mais la crise sanitaire a contraint le gouvernement à décaler ces élections une première fois pour finalement annoncer qu'elles se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Cette décision a été globalement assez bien accueillie par les principales forces politiques du pays, même si ce scrutin promet d'être quelque peu atypique. Néanmoins, ces élections sont fondamentales puisqu'elles constituent le dernier grand rendez-vous démocratique avant l'élection présidentielle de 2022. Ce grand rendez-vous sera aussi l'occasion de voir notre paysage politique se préciser avant l'élection présidentielle. Vote sanction, affirmation de l'ancrage territorial du Rassemblement national ou encore union des gauches, ces élections nous permettront peut-être d'anticiper ce qui pourrait se passer en 2022, tout en permettant aux différentes forces politiques de revoir leur stratégie électorale. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir maintenu ce scrutin? Et est-ce que ces élections peuvent servir de laboratoire dans la perspective de l'élection de 2022? Et je vais donner la parole à Gabrielle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Alors, c'est un thème dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir maintenu le scrutin ? Je pense que ce qui a présidé au maintien, c'est le fait qu'on est dans une période où on nous annonce que potentiellement des bars, des restaurants, des lieux culturels vont rouvrir mi ou fin mai et que ça paraît compliqué d'avoir à la fois la réouverture de ces lieux-là, les magasins qui sont ouverts hein, pour beaucoup et de conserver une démocratie confinée, on va dire. Donc, on est aussi dans un contexte où, au niveau européen, plusieurs élections ont eu lieu ces derniers mois. Donc, depuis janvier 2021, on a voté au Portugal, en Allemagne, on a voté aux Pays-Bas, on a voté aux États-Unis, hors de l'Europe. Donc, ça paraissait compliqué aussi d'être le seul pays qui ne réussirait pas à faire continuer sa vie démocratique. Et ensuite, est-ce que ça peut servir de laboratoire pour la suite, donc en particulier à gauche ? Enfin, ça, je vais revenir à ça en fait ensuite, puisque ça fera une bonne transition avec le deuxième sujet. Ce qu'il faut dire quand même sur le maintien et surtout la tentative, la nouvelle tentative de report, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, on a été nombreux et nombreux à l'interpréter comme ça, des élections régionales. C'était très problématique. Je rappelle que, donc, tu l'as très bien dit, ça a déjà été reporté une première fois. Jean-Louis Debré, qui était chargé du rapport pour le gouvernement, qui a précédé le premier report, a lui-même fini par reconnaître et rendre public le fait qu'il avait reçu des pressions pour décaler les élections régionales à après 2022, ce qui était très problématique. Évidemment, on comprend bien pourquoi, parce que dans la stratégie d'LREM, ce ne sont pas des élections qui s'annoncent très bien, comme toutes les élections locales, parce qu'ils souffrent toujours d'un très 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 faible ancrage local. On a vu aux dernières municipales avec des résultats assez catastrophiques et puis une incapacité aussi à présenter des candidats partout. Donc, on est dans une situation d'un parti en fait présidentiel, mais qui n'a pas de ramification locale. Et donc, évidemment, la perspective d'une défaite cuisante si proche de la présidentielle n'enchantait pas les proches du président, ce qu'on peut comprendre. Ça reste toutefois profondément choquant, évidemment, de vouloir adapter le calendrier démocratique, électoral à des fins politiques. En fait, c'est du jamais vu et c'est profondément choquant. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Donc il y avait besoin de déconfiner la démocratie. Et maintenant, la question qui se pose et qui est pas une question facile du tout, c'est celle de la campagne. C'est celle évidemment de l'organisation des opérations électorales. Et là aussi, je rappelle, enfin, je ne veux pas faire du LREM bashing gratuitement, mais vraiment, c'est très très sincère et la colère est très grande parce que il n'y a eu aucune adaptation des conditions de campagne et à ce stade des conditions de vote. Donc, je vous parlais des Pays-Bas, je vous parlais de l'Allemagne où il y a eu des votes. Ça s'est accompagné d'un développement du vote par procuration, d'un développement des votes par correspondance, d'une extension des horaires de vote aussi dans les bureaux. Donc, j'espère toujours que ça pourra être le cas, mais pour le moment, on n'a pas de retour là-dessus, pas de garantie, parce que c'est des demandes qu'on fait depuis maintenant presque un an. Ça, c'est aussi très problématique, c'est-à-dire maintenir les élections, oui. Après, il faut aussi faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde.
Oui, c'est sûr que c'est assez intéressant. Enfin, ça va être intéressant de voir comment les choses s'organisent, sachant que beaucoup de personnes gardent un assez mauvais souvenir des municipales, hein, du scrutin municipal. Toi, Audrey, d'ailleurs, t'as été élue à ce moment-là, t'as été élue dans un contexte particulier avec... des gens qui avaient peur d'aller voter hein, à ce moment-là. Enfin, moi, je me souviens quand je suis allée glisser mon bulletin dans l'urne, en tout cas au premier tour, alors que l'avant-veille, on nous avait dit qu'on fermait tout et que le pays était en état de guerre. J'étais un peu inquiète. Je n'étais pas très, très sereine lorsque je traînais au bureau de vote et que je faisais la queue pour voter. Comment tu vois les choses venir ? Est-ce que d'ailleurs, tu penses qu'on aurait pu apprendre en fait, de ces élections municipales pour faire en sorte d'anticiper un peu, de faire en sorte que les élections régionales et départementales puissent bénéficier effectivement de moyens tels que Gabriel les mentionnait
Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Gabrielle. Il n'y a pas eu assez d'anticipation sur des nouvelles formes de vote qui nous serviront aussi pour l'avenir, parce que cette crise montre que il faut qu'on développe notre résilience et notre manière de réagir face aux crises. Bon, ceci dit, moi, je trouve qu'il fallait absolument tenir ces élections parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus et on n'en est pas encore débarrassé. D'autres variants arrivent. Il faut, dans le temps long, qu'on apprenne à vivre avec le virus, à faire campagne avec le virus. Et aller voter n'est pas plus dangereux que de faire ses courses en ce moment dans les supérettes ou un supermarché une heure avant la fermeture. Donc, si on peut vacciner les présidents et les assesseurs, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, il faudrait aussi vacciner tous les caissiers et les caissières des supermarchés. Donc, pour moi, c'est un peu un faux débat, même s'il faut évidemment faire le possible pour mettre en place des mesures de sécurité sanitaire autour de ces élections et rassurer les électeurs. Par contre, la question, c'était vraiment tenir ces élections qui ont déjà été reportées de mars à juin, parce qu'on sait bien que les collectivités sont totalement en attente dans les périodes préélectorales. Or, on est justement en sortie de crise sanitaire, il y a une crise économique et sociale, donc on a absolument besoin que les collectivités reprennent, notamment dans le champ de l'investissement pour la relance économique, mais pas que, dans l'ensemble de leur projet. Voilà, puis moi, évidemment, avec ma casquette écologiste, je pense qu'il faut que les élections se tiennent le plus tôt possible parce qu'aujourd'hui, les exécutifs régionaux et départementaux n'adressent pas du tout la question de la transition écologique. Et donc, plus vite il y aura des élections et plus vite, je porte l'espoir que des exécutifs écologistes ou écologistes alliés avec la gauche puissent prendre le pouvoir pour adresser vraiment le problème de la transition écologique. Voilà, je me permettrai juste, puisqu'on fait le lien avec le Covid, de rappeler que de nouvelles études ont été publiées par diverses universités internationales le mois dernier et qui montrent qu'aujourd'hui, c'est plus de 97 000 personnes, donc presque 100 000 personnes par an en France, qui meurent de manière prématurée à cause de la pollution de l'air. Donc ça, c'est un sujet voilà, qui n'est pas adressé aujourd'hui par les départements et les régions. Donc vivement les élections et vivement que les personnes se mobilisent sur ces thématiques-là.
C'est sûr. Du coup, on peut même se poser la question de savoir si ce report, finalement même du mois de mars, était vraiment judicieux et pertinent. On peut se poser cette question. Par exemple, quand tu vois que finalement on nous promettait un retour à peu près à la normale mi-avril et que maintenant finalement l'échéance ne cesse d'être repoussée dans le temps, on peut se demander si finalement mars ou juin, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Aurélie, tu vois les choses comment toi?
Mais pour moi, en fait, je trouve ça fou qu'on soit encore en train de voter comme on vote maintenant, pour être très honnête. Je comprends pas vraiment. Moi, je suis assez nomade, comme vous le voyez. Je suis dans une voiture, sur une route en Espagne en ce moment. Je bouge beaucoup. Je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Les jeunes bougent aussi beaucoup, pas que les jeunes d'ailleurs. Et cette idée de devoir se rendre au bureau de vote de ton domicile, hein, ça me dépasse. Hein. En 2021, je suis là genre, bon, on gère son compte en banque en ligne. On déclare ses impôts en ligne. On fait tout en ligne. On a Amélie pour la sécurité sociale. On a tout en ligne. Moi, j'adorerais recevoir des SMS avec mes codes pour pouvoir me connecter à une plateforme qui me dise, voilà les prochaines élections. Voilà les candidats. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà la comparaison des programmes. Allez, on y va. Moi, c'est ça que j'attends. Parce que franchement, moi, je ne vais jamais à mon bureau de vote dans le village où j'habitais. Alors, je suis enregistrée au consulat de Barcelone. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je fasse une procuration. Mais la procuration, je la fais du coup en France. Enfin, c'est hyper compliqué. Et donc, pour moi, honnêtement, on parle aussi de la participation. À chaque fois, on se dit, oh, ben, les jeunes n'y vont pas. Ben, tu m'étonnes qu'ils n'y vont pas. Enfin, autre chose à faire le dimanche qu'aller au bureau de vote. Donc, pour moi, c'est ça. Je trouve qu'il y a... quand vous parliez tout à l'heure de Danemark, ou oui, vote par procuration, ok, mais je pense que maintenant, moi, j'aimerais quelque chose qui arrive dans ma boîte aux lettres, ou dans mon téléphone, avec les différentes options, avec les codes, qui fassent ça facile. Je suis sûre qu'on aurait au moins 10, 20, 30% de participation de plus que ce qu'on a aujourd'hui, où vraiment on est, pour moi, complètement décalé avec le mode de vie que l'on a aujourd'hui. Surtout après le Covid, où on a vu que tout pouvait finalement se faire en ligne.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, il reste ce côté très bureaucratique, très archaïque, en fait, du fait de voter. C'est assez intéressant. Ouais.
Quand tu le dis, tout le monde te dit « Oh, mais la sécurité ben, !» Je me dis « Mais quand même, la sécurité, on arrive à gérer les comptes en banque. Moi, je déclare comme auto-entrepreneur, à l'URSSAF, mes impôts. Ben, il y a aussi une sécurité là-dedans, je ne comprends pas. » Donc, je trouve qu'on a une vision, pour moi, un peu archaïque de la façon de voter à laquelle je m'identifie.
Pas très en
trop.
Phase avec la Startup Nation, en plus. Hein.
Ouais, clairement.
Pas très cohérente avec la Startup Nation, clairement. Sur l'aspect plus laboratoire, notamment pour... le principal auquel on pense, c'est le laboratoire de l'Union des Gauches, hein, dont on parlera aussi en deuxième partie de l'émission. Mais sur l'aspect régional, on voit qu'il y a des alliances qui se sont structurées. Je pense plus particulièrement à la région des Hauts-de-France, où Karima Delli représentera les couleurs d'une gauche plutôt unie. Gabriel, tu perçois ça comment, toi ? Moi, j'ai... Comment dire ? Ça me donne un certain espoir. Après, je me pince en me rappelant à la réalité, en me disant qu'il s'agit d'un scrutin qui est quand même très différent par rapport au scrutin présidentiel, parce que là, c'est une liste. Donc déjà, on peut avoir plusieurs personnes sur la liste, tandis que la présidentielle, c'est une seule et unique personne. Mais bon, quand même, je trouve que ça peut être intéressant de faire émerger un dialogue et de potentielles unions. Tu vois ça comment, toi, Gabrielle ?
Bah déjà, il faut rappeler qu'à gauche, en fait, peut-être contrairement à ce qui ressort des médias avec des polémiques un peu montées en épingle par la droite et certaines chaînes d'infos en continu, en réalité, la gauche se parle beaucoup. Hein, les responsables de gauche se parlent très régulièrement, que ce soit au niveau national ou au niveau local, où on travaille ensemble. D'ailleurs, Audrey l'a dit tout à l'heure, mais c'est pareil à Paris. On a une majorité qui est multiple avec les écologistes, avec les communistes, avec les socialistes, et ça se passe très bien. Et donc, on discute beaucoup. Et donc, voilà, ces discussions, elles se poursuivent aujourd'hui. L'exemple des Hauts-de-France est intéressant parce qu'évidemment, il y a besoin de cette dynamique de rassemblement pour espérer renverser Xavier Bertrand. Il faudrait que la même chose puisse avoir lieu aussi en Auvergne-Rhône-Alpes pour donner une chance à la gauche de battre Laurent Wauquiez. Et puis ensuite, pour ce qui est des autres régions, j'ai pas de doute que les candidates et les candidats en lice, là où il y a plusieurs listes, sauront se parler le moment venu. Moi, je rejoins ce qu'a dit Audrey tout à l'heure. C'est important que ces élections aient lieu et que les exécutifs puissent changer, qu'il puisse y avoir une alternance. Alors, je pense aussi évidemment à l'Île-de-France, puisque c'est ma région. C'est important pour mettre en œuvre la transition écologique. C'est aussi important pour venir en aide à une jeunesse qui est extrêmement touchée par cette crise. On a appris d'ailleurs aujourd'hui, et c'est un véritable drame, mais c'est des drames qui se multiplient. On a appris le suicide d'un étudiant dans sa résidence universitaire, je crois que c'était dans le Nord. On voit à Paris, moi je le vois dans le 18e arrondissement, parce qu'on a organisé des distributions alimentaires, c'était même la première mission que j'ai assumée en tant qu'élue. On voit des files alimentaires qui ne se réduisent pas, avec de jeunes étudiants qui ont besoin de faire la queue et, au Resto du Cœur pour pouvoir manger. Enfin, c'est une situation qui est dramatique dans un pays comme la France, et qui est profondément choquante, et il faut absolument qu'on puisse agir pour remédier à ça. Et donc c'est la raison pour laquelle Nous, on porte, par exemple, je me permets de parler de ça parce que c'est, je pense que c'est une mesure à la fois profondément sociale et qui favorisera la transition écologique, la question de la gratuité dans les transports en commun. Et la question de la gratuité dans les transports en commun, c'est quelque chose de très concret à la fois, évidemment, pour favoriser le report sur les transports en commun, mais aussi en matière sociale, parce que ça va représenter 350 euros d'économie pour un étudiant, 830 euros d'économie pour un jeune de 18-25 ans au chômage. Donc, c'est des choses extrêmement concrètes, des mesures sociales qu'il faut prendre très, très vite dans une période de crise où la droite, comme souvent, n'est pas au rendez-vous.
Ouais, donc ça peut quand même faire émerger un certain nombre d'actions communes, en fait. C'est assez intéressant. Oui. Audrey, toi, on parlait de Rhône-Alpes, toi qui es sur le territoire, on a vu récemment que la candidate ELV refusait de se retirer au profit de Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que tu ne penses pas que ce genre, en fait, de positionnement pourrait nuire un peu à cette tentative de s'unir autour d'un dénominateur commun pour la gauche?
Ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment la question du projet pour une région ou un département. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans aller maintenant sur le deuxième sujet, mais la gauche dans son ensemble reconnaît de plus en plus la nécessité de porter de front la transition écologique, la justice sociale et la participation citoyenne. C'est vraiment trois triptyques, l'environnement, la solidarité et une autre manière de faire de la politique qui vont ensemble. Et je pense que dans beaucoup de régions, et c'est le cas aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, au final, toutes les forces de gauche, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas comme La République En Marche, qui au contraire nuit vraiment à l'environnement, je ne parlerai pas de la 5G et des autres manques de ce gouvernement. Et bon, la droite, elle adresse des sujets totalement différents en termes notamment de sécurité ou d'immigration, et plutôt dans le négatif, alors qu'il y a un mouvement pour un avenir désirable, en fait, pour nos territoires. Et on va tous se mettre derrière. Au final, j'en suis certaine. Et bon, alors après, la question, c'est est-ce qu'on s'allie dès le premier tour ou est-ce qu'on s'allie pour le deuxième tour? Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Europe Écologie Les Verts a organisé un débat et un vote. Ce n'était pas qu'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, parce que en Auvergne-Rhône-Alpes, les écologistes ont fait, comme on a fait pour les élections municipales de Lyon et les élections métropolitaines, un rassemblement auquel s'allient des personnes qui peuvent avoir leur carte dans un parti écologiste, mais aussi des citoyens qui ont adhéré au projet pour une région solidaire et résiliente. Et donc, on a fait voter toutes ces personnes-là. Et 55% des militants souhaitaient l'alliance dès le premier tour, mais quand même 45%, donc c'est quand même presque à la moitié, pensaient qu'il vaut mieux parfois pour le premier tour que chaque parti, chaque mouvement aille chercher ses électeurs en mettant vraiment l'accent sur ce qui est le plus important pour lui, selon sa couleur ou sa tendance, pour ramener des électeurs. Par exemple, on pourrait imaginer des personnes un peu centriste, par exemple, qui voudrait voter pour un parti écologiste, mais qui ne voterait pas forcément pour une alliance où il y aurait jusqu'au Parti socialiste, Parti communiste, voire la France insoumise. Or, une fois que ces personnes-là auraient voté, par exemple, au premier tour pour les écologistes, ils voteraient sans doute au deuxième tour pour l'alliance dans laquelle il y a les écologistes. Donc, voilà, les deux choses s'entendent. Ceux qui pensent qu'il vaut mieux s'allier tout de suite, ceux qui pensent qu'il vaut mieux porter un discours, un projet bien clair et après expliquer que les mouvements ont réussi à se rejoindre sur les fondamentaux. Enfin, c'est ce qu'on a fait au niveau de la ville de Lyon pour les élections. Après, la question des personnes, c'est vrai que c'est délicat. Parce que les écologistes ont fait des très bons scores au niveau notamment de certaines villes et métropoles d'Auvergne-Rhône-Alpes et donc considèrent que c'est aujourd'hui la force qui pourrait obtenir le plus de suffrages si on partait séparés. Bon, voilà, ça c'est un peu délicat. Le Parti socialiste que représente Najat Belkacem est moins crédité au niveau des sondages et a eu moins de voix lors des derniers scrutins. Voilà, on trouve que ce n'est pas normal dans ces conditions-là que la tête de liste soit portée par elle. Mais bon, au-delà des personnes, c'est quand même vraiment, je pense vraiment à la question des idées. Et je vois sur Lyon où le scrutin était vraiment sans appel, les écologistes avaient fait des très bons résultats au premier tour. Et donc, tout le projet s'est construit derrière l'écologie. En adressant autant les questions de justice sociale, je pense que l'aurait fait le Parti socialiste ou même France, la LFI, s'ils avaient été sans les écologistes.
Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que parfois, est-ce qu'il faut d'abord… Moi, je pense que l'idéal, ce serait d'abord de définir un projet et ensuite de trouver quelqu'un qui sera en capacité de réunir derrière ce projet. Aurélie, toi, tu vois les choses comment? Est-ce que tu penses que ces élections peuvent être un véritable laboratoire pour les différentes forces politiques et leur permettraient éventuellement de redéfinir leur stratégie pour la présidentielle, notamment?
Oui, je pense que c'est toujours intéressant, non, d'avoir comme un premier round, non, de voir un peu où on en est. Moi, je suis assez curieuse de voir l'appréciation du gouvernement actuel après la crise du Covid. J'aimerais un peu savoir ce qu'il en est. Je pense que c'est clair, mais après, moi, c'est vrai que cette union des gauches, ça fait un moment qu'on l'attend. Et c'est assez marrant de voir, parce que j'habite donc à Barcelone, et à Barcelone aussi, il y a beaucoup de divisions au sein de la gauche. C'est assez marrant de voir comment la droite arrive à s'unir face à un ennemi commun, qui est souvent l'étranger, par exemple. On parle beaucoup de l'islam à toutes les sauces aujourd'hui. À gauche, on a beaucoup plus de mal à s'unir. On le voit aussi dans les mouvements féministes, les mouvements féministes, on a les féministes radicales, on a les féministes pro-prostitution, contre la prostitution, etc. etc. Et je trouve que dans les mouvements qui ont finalement les droits humains plus à cœur, paradoxalement, on a encore plus de mal à s'unir. Donc pour moi, j'attends de voir des candidats ou des candidates qui me représentent. Moi, j'aimerais bien voir une femme, enfin, et pas Marine Le Pen.
Oui, bien sûr, mais sans empiéter sur le second thème, là, restons sur les régionales. Est-ce que tu penses que, typiquement, tu veux voir une femme, on a Karim Adeli dans les Hauts-de-France qui va représenter la gauche. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui pourrait être un signal positif, justement, pour les forces de gauche?
Oui, absolument. Je pense que c'est déjà un premier pas. Si on a déjà une représentation et si on a déjà un programme sur lequel on s'allie, oui, absolument.
Et c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement essayer de transposer à une élection nationale, en fait.
Oui, complètement. Si ça marche au niveau régional, pourquoi ça ne marcherait pas au niveau national, absolument.
Oui, à voir, effectivement. Gabriel, tu voulais réagir peut-être pour finir sur ce thème. Ensuite, on passera effectivement à l'union de la gauche, parce que vous avez tellement envie d'en parler que là, on va y aller.
Non, je voulais juste réagir sur le sujet de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les intentions de vote, en réalité, que ce soit… c'est le problème aussi. Je ne sais pas si c'est… c'est le sujet qu'on a à gauche en ce moment, c'est que dans plusieurs cas, personne, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, ne se dégage franchement dans les intentions de vote. Et donc, on est dans une situation où voilà, tout le monde est un peu au coude à coude. Et en réalité, c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes entre Fabienne Grébert et Najat Vallaud-Belkacem, qui sont vraiment… Najat Vallaud-Belkacem, elle est entrée en campagne un peu plus tard, donc il faudra voir ce que ça donnera dans plusieurs semaines, mais… Elles sont testées au coude à coude, donc ça rend difficile aussi le fait de départager les choses de manière évidente. En revanche, c'est vrai que le discours qui est le nôtre concernant Najat Vallaud-Belkacem, c'est qu'il y a une question d'incarnation dont elle bénéficie, et comme c'est une personnalité politique de rayonnement national. Donc, c'est ça un petit peu la logique pour réagir à ce que disait Audrey, c'est que le duel Wauquiez-Najat Vallaud-Belkacem pourrait plus parler, parce qu'on a là deux personnalités qui ont déjà émergé sur la scène nationale, ce qui, mais pour ELV, la réalité, c'est que c'est pour beaucoup des personnalités aussi politiques récentes, ce qui a des intérêts, des avantages. Mais là, pour la question, c'est vrai, de l'incarnation dans une campagne courte face à des personnalités de droite, de rayonnement national, ça nous paraît plus adapté. Mais la suite dira. Voilà, dira.
Oui, c'est un argument qui se défend et je suis en partie d'accord avec toi. Mais finalement, on a vu des personnalités non connues émerger pendant les dernières municipales et ça a fonctionné. Hein. Comme quoi, peut-être que le programme reprend un peu le dessus sur les personnalités, je ne sais pas, à suivre. Oui, Audrey, tu voulais réagir, bien sûr.
Oui, parce que en effet, au-delà des personnalités, ça fera lien avec ce que disait Aurélie aussi tout à l'heure, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent qu'il faut mettre en place un changement fort dans nos manières de vivre, de consommer, de produire, de travailler. Donc, c'est vraiment cette transition écologique et sociale et solidaire. Mais beaucoup de ces personnes ne votent pas, notamment les jeunes, et ça ne leur parle pas trop finalement que ce soit tel ou tel candidat. Donc, parfois, même un candidat peu connu, enfin, en tout cas, ça a été le cas, en effet, sur Lyon, peut émerger parce que c'est vraiment la volonté de changer qui est forte. Et voilà, il faut réussir à parler aux jeunes, c'est toute la difficulté, en leur disant, vous agissez aujourd'hui, vous agissez en faisant des marches, par exemple, pour le climat, vous agissez pour certains en consommant différemment, mais vous pouvez aussi agir en votant. Même si, comme le disait tout à l'heure Aurélie, voter, ça a l'air d'être complètement poussiéreux, puis c'est de la politique, est-ce que ce n'est pas politicien? Mais en fait, les régions, elles ont des compétences énormes en termes de transport en commun, en termes d'aménagement du territoire, en termes de formation professionnelle. Et donc, voilà, il faut aller voter, quel que soit le candidat ou la candidate. Mais c'est mieux pour une femme, en effet.
Mais oui, en plus, là, ce qui est bien, c'est que tant ELV que PS, en tout cas en Rhône-Alpes, ce sont des femmes. Donc, on a l'embarras du choix.
Je crois qu'effectivement, au-delà des personnalités, ce que les municipales ont bien montré, c'est qu'on a une vraie vague d'union de la gauche et une vraie dynamique qui se crée du fait de l'union, qui est quelque chose qui est demandé, on le voit dans les sondages d'opinion, par 80% des électeurs à gauche aujourd'hui. Et ça fera une transition parfaite avec le thème suivant, puisque moi, ma conviction, merci, c'est que les différents partis politiques de gauche n'ont jamais été aussi proches sur le fond.
Oui, tout à fait. Merci pour la transition toute faite, toute trouvée, comment vous mâchez le travail, c'est merveilleux. Alors, on va effectivement parler de la réunion des gauches, parce que là, on a envie d'en parler. À l'initiative de Yannick Jadot, s'est tenue samedi 17 avril la réunion des gauches, pendant lesquelles les représentants des partis de gauche se sont mis d'accord pour renouveler l'exercice fin mai et ouvrir ce rendez-vous au collectif citoyen favorable à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 2022. Cette initiative est assez enthousiasmante. Bien qu'il semble difficile de pouvoir rassembler toutes les sensibilités politiques de gauche derrière une seule et même personne pour 2022. Qu'en pensez-vous ? On sait que vous y êtes favorable, vraisemblablement. Et comment avez-vous accueilli cette initiative ? Sachant que, finalement, moi j'étais assez surprise que ça vienne de la part d'Yannick Jadot. Est-ce qu'il avait vraiment la légitimité pour appeler pour ELV ? Et ça, je demanderai à Audrey ce qu'elle en pense, sachant que les primaires n'ont pas été encore tout à fait tenues au sein du parti. Pour appeler à cette union de la gauche, il a quand même, en mettant un peu les pieds dans le plat, il s'affirme un peu en candidat presque naturel de ELV. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez effectivement que la gauche soit en capacité aujourd'hui de faire front commun pour 2022 ? Et je vais te donner la parole en premier, Audrey.
Merci Léa. Moi, j'étais ravie de voir cette initiative parce qu'il faut absolument réussir à construire un projet commun pour les présidentielles. Et même s'il y a énormément de points communs entre les différents mouvements de gauche, échanger vraiment sur le fond, sur des projets, sur les arbitrages, ça prend quand même du temps. Et donc, il faudra bien un an pour réussir à construire cette alliance progressivement. C'est vraiment un gage de cohérence dans la campagne et dans le projet qui est proposé aux électeurs et aux électrices. Mais c'est aussi un gage de bonne gouvernance ensuite, si c'est la gauche qui gagne aux présidentielles et aux législatives. Et ça, c'est très important. Et c'est plus important que la personne. D'ailleurs, on voit bien qu'Emmanuel Macron a été quand même élu sur sa personne avec un parti qui n'avait pas d'histoire, qui n'avait pas eu le temps de se construire un projet commun. Et voilà, résultat, sa majorité à l'Assemblée tient très mal, il n'a pas d'assise territoriale. Donc, moi, je trouve vraiment une très bonne chose de commencer à rassembler les opinions dès maintenant autour de la transition écologique, sociale et démocratique. Après, la question des personnes, c'est différent. Chez Europe Écologie Les Verts, comme chez Génération Écologie, on est toujours beaucoup dans le collectif, même si au final, il faudra qu'il y ait un candidat ou une candidate. Pour l'instant, on a besoin de tout le monde. Donc, si c'est Yannick Jadot qui a lancé l'initiative, très bien, parce qu'on a besoin de différentes personnalités. Il y a des personnalités qui sont vraiment très bonnes pour rassembler. D'autres qui sont très bonnes pour participer à l'élaboration d'un programme, mais qui ne seraient pas forcément le ou la meilleure candidate, et vice-versa. Donc, peut-être que dans un deuxième temps, une fois que le projet politique aura bien avancé au sein de la gauche, on pourra collectivement réfléchir à qu'est-ce qu'un bon candidat ou une bonne candidate, pour ensuite le choisir collectivement. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu ensuite des primaires, ou de la sociocratie, enfin, différentes méthodes pour pouvoir faire émerger la personne qui semble la plus appropriée pour pouvoir porter le projet au niveau de la présidentielle. Mais voilà, le plus important, moi, je pense, c'est vraiment le terreau du projet, parce qu'il y a la présidentielle, mais il y a aussi les législatives. Et puis maintenant, on a montré que l'Alliance des écologistes et de la gauche a de plus en plus de poids, peut gouverner. Et donc, il faut préparer le terrain pour le long terme.
Ah ouais, c'est une excellente chose. Moi, j'ai effectivement aussi accueilli très positivement. Mais après, c'est vrai que je me dis, finalement, est-ce qu'on va vraiment arriver à permettre à toutes les sensibilités politiques à se rattacher au wagon ? Enfin, là, on a déjà vu que LFI venait de sortir un communiqué de presse en disant qu'il fallait se placer derrière Mélenchon. Enfin, on sent que ça ne va pas être facile. Y a eu quand même déjà quelques initiatives, hein, pour permettre aux divers gauches de discuter, et pour le moment, ça n'a pas été un franc succès. Aurélie, tu as accueilli ça comment, toi ?
Moi, j'ai accueilli ça de façon positive. Après, je me dis, on est en retard, quoi. On met trop de temps. Les présidentielles, c'est dans un an. Qu'est-ce qu'on attend ? Enfin, on est encore là à se dire, oui, alors est-ce que c'était la meilleure personne pour convoquer ça ? Est-ce que la personne avait la légitimité ? On s'en fout. Moi, je m'en fous, hein, personnellement. Moi, ce que je voudrais voir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui veulent voir ça, c'est des gens qui représentent un autre discours face à l'islam, des gens qui représentent un autre discours face aux femmes et aux violences faites aux femmes, qui représentent un autre discours par rapport au climat. Et je crois encore, je suis désolée, même si ça peut paraître un peu... Vous n'avez pas l'air tellement d'accord avec ça, mais je crois encore que ça doit s'incarner. Benoît Hamon, il était super, ben, il n'a pas incarné. Donc, il y a un moment où il faut l'incarner. Il faut un Obama, il faut une Alexandra Ocasio-Cortez. Il faut ça. Je ne sais pas si ça viendra des partis, honnêtement. Enfin, moi, je vois beaucoup de mouvements maintenant qui viennent plutôt du champ de l'entrepreneuriat social, que ce soit Alice Barbe, par exemple, qui a fait partie de la première cohorte de fellow Obama, justement, et qui va monter une académie de nouveaux leaders pour créer de nouveaux types de leaders pour les prochaines élections. Je vois le programme Tous élus, qui sélectionnent pareil des personnes qui n'ont jamais été élues et leur enseigner comment se présenter aux élections. Enfin, moi, je crois beaucoup plus à ça à des initiatives citoyennes qui viennent de l'entrepreneuriat social que des partis, parce que franchement, le rythme des partis, on n'est pas pareil en 2021, quoi. Donc, oui, je ne sais pas. Moi, je suis évidemment d'accord avec l'Union des Gauches. J'attends un candidat, une candidate et un programme uni. Maintenant, je ne sais pas. Il y a une partie de moi qui n'y croit pas, en fait.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tu parlais du fait d'incarner, et c'est vrai que c'est super important de trouver quelqu'un qui soit en capacité d'incarner. Est-ce que tu penses qu'il y a une personnalité qui est d'ici là, d'ici mai 2022, sera en capacité de créer la surprise, quelqu'un qu'on n'attend absolument pas?
Écoute, moi, je l'espère. Je l'espère sincèrement. Et je pense honnêtement qu'on doit aller chercher dans d'autres milieux. Et dans des milieux, comme j'ai dit, des milieux activistes, des milieux plus jeunes, des milieux pas forcément politisés déjà, mais des gens qui savent utiliser de nouvelles technologies, qui savent utiliser le storytelling et le narratif pour vendre un projet et vendre quelque chose qui a un impact social. Je pense qu'il faut quelque chose de nouveau, quoi, honnêtement. Je sais pas. Et il y a une partie de moi qui a envie d'y croire et qui a envie de s'engager. Il y a une partie de moi qui ne croit pas à la politique et qui pense que le changement vient d'ailleurs. Mais je pense que c'est beaucoup de jeunes qui sont comme moi, malheureusement.
Oui, affaire à suivre, effectivement. Gabrielle, toi, tu l'as accueilli comment, cette réunion, cette initiative?
Bah, très bien, je l'ai accueilli très bien, évidemment. Il fallait le faire, il faudra que ça donne lieu à d'autres réunions et c'est déjà prévu. Donc ça, c'est rassurant, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une réunion pour la photo de famille. Donc, la photo de famille était très bien d'ailleurs, était importante aussi, mais il fallait que ça donne lieu à quelque chose de concret pour la suite. Donc, j'ai vu qu'il y avait un autre rendez-vous qui a été fixé en mai et surtout l'idée d'avoir un contrat de gouvernement pour l'automne et ainsi qu'un accord sur les législatives. Alors, ça fait très, effectivement, ça fait très partisan, ça fait très, peut-être, politicard, je ne sais pas, je rebondis à ce que disait Aurélie, et j'aimerais bien commenter d'ailleurs, parce que c'est un débat qui est intéressant. Mais pour autant, on doit absolument passer par là. Il faut qu'on se mette autour de la table, comme ça a été le cas aujourd'hui, pour éventuellement aplanir des désaccords qui sont en réalité minces. Enfin, vraiment, je voudrais appuyer là-dessus. On sort malheureusement de plusieurs semaines de polémiques assez stériles sur des sujets comme les réunions non mixtes ou l'islamo-gauchisme. Il faut bien voir que c'est évidemment des polémiques qui sont allumées par la droite ou l'extrême droite sur les réseaux sociaux, qui réussissent très bien d'ailleurs à diviser la gauche. Mais en fait, il n'y a pas du tout le temps de se poser, d'avoir une discussion informée, honnête sur le fond. C'est simplement une montée en épingle systématique, et moi je le vois vraiment depuis que je suis porte-parole, et on se retrouve coincé en fait, mis au pied du mur, sommé de réagir et d'être classé dans tel ou tel camp. Les médias en plus, les chaînes d'information en continu valorisent les positions antagonistes, donc les amplifient, les font encore plus ressortir, et on a l'impression d'un débat public qui est complètement confisqué et conflictuel, alors que vraiment, mais enfin pardon, moi je suis sûre que je n'ai aucun problème à m'entendre, et d'ailleurs c'est le cas, je disais, on travaille quotidiennement ensemble avec mes homologues de ELV, du PSF, sur ce qui est l'essentiel en fait, c'est-à-dire aujourd'hui comment on répond à la crise sociale des jeunes, comment on fait en sorte que le travail paye, comment on fait en sorte d'engager véritablement la transition écologique et pas de se contenter de petites lois comme la loi climat. Et là-dessus, c'est évidemment ce qui préoccupe les gens, enfin c'est ça qui les préoccupe, c'est pas de savoir je sais pas, quelle est la position de tel cadre de machin sur la laïcité, enfin non en fait. Donc voilà, pour autant c'est des sujets dont il faut parler, mais vraiment ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les désaccords sont pas si grand que ça sur le fond, et c'est certainement pas ce qui empêchera de se rassembler, de faire campagne ensemble, du moment qu'on est d'accord sur sur l'essentiel, quoi, la lutte contre les inégalités et la transition écologique. Ensuite, je voulais juste réagir rapidement sur ce que disait Aurélie, parce que je trouve ça intéressant et je l'entends beaucoup. Et moi, en fait, en tant que jeune cadre d'un parti qui ne me définit pas en fait exclusivement par mon étiquette partisane, parce que c'est simplement une, je suis certaine que c'est pareil pour Audrey, qui est une jeune élue, qui est simplement une facette, on va dire, une de mes appartenances, mais qui ne constitue pas mon identité. En fait, on ne peut pas mettre une étiquette sur le front avec marqué PS et puis ça explique l'intégralité de ce que je serais. Pas du tout, en fait. Enfin, moi, pour le coup, je suis je travaille, je suis active professionnellement tous les jours dans la finance durable, donc dans la protection de l'environnement. Hein, en fait, j'essaierai de vous en dire deux, trois mots ensuite. Mais moi, je crois qu'il faut absolument encourager la diversité de la représentation politique. Là où Aurélie a raison, je trouve, c'est qu'on n'a pas une représentation, une représentativité politique qui correspond à la réalité sociale, notamment du pays. Ça, c'est évident. Voilà, on a 80% de cadres à l'Assemblée nationale et puis il y a 80% en réalité des Françaises et des Français qui ne sont pas cadres. Donc, on a un vrai sujet. Fort heureusement, on a de moins en moins de sujets sur la question des femmes, et encore, parce qu'évidemment, quand on regarde les présidences d'exécutifs, c'est encore en très grande majorité des hommes. On a la parité sur les listes, mais si on n'avait pas eu les quotas, on aurait beaucoup de difficultés. Donc, on a un sujet sur la représentation et la représentativité politique, mais je crois que ça passe aussi par encourager le renouvellement au sein des partis, le rajeunissement, parce que ça permet aussi de faire se rapprocher les partis politiques de gauche. Je suis certaine que nous, si on est en train d'évoluer très fortement au Parti socialiste sur la question environnementale ces dernières années, c'est aussi parce qu'il y a un renouvellement générationnel. C'est aussi parce que voilà, des gens comme moi poussent ces idées. Je suis évidemment pas la seule, mais et sur le féminisme, c'est la même chose. Mais là où je crois que les partis restent très importants, c'est qu'en fait, on n'a pas encore trouvé d'alternative pour organiser la vie démocratique. Donc, je pense que si on veut agir, on doit agir en fait un peu dans toutes les facettes de son activité, dans la vie professionnelle, dans l'associatif. Je suis tout à fait d'accord avec Aurélie, le changement peut et doit aussi venir d'ailleurs, mais il doit aussi passer par la politique. Et pour ça, il y a la case parti, il y a la case élection. Et en fait, c'est comme ça depuis des siècles. Et donc, je pense que renoncer à ça, c'est renoncer aussi à la capacité de faire changer les choses. Voilà.
Mais j'aurais une question justement là-dessus. Vous qui faites partie de partis, quelles sont les actions aujourd'hui des partis auxquels vous appartenez pour diversifier la pipeline de candidats? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des académies au sein du PS, au sein de l'écologie Les Verts, et est-ce avec vraiment des profils différents?
Bah oui, c'est là toute la clé. Alors, je tiens quand même à rappeler, et je serais très ravie d'échanger après l'émission là-dessus, d'ailleurs, sur les questions de féminisme, parce que ça me tient beaucoup à cœur, mais que typiquement, enfin, c'est quand même les socialistes qui ont réussi à faire passer la loi sur la parité, et donc ça a été un très fort renouvellement, évidemment, et que ça s'est passé par une loi, et ça fait qu'aujourd'hui, on a 50% de femmes sur toutes les listes. Donc ça, c'est un truc en fait fondamental qu'on oublie peut-être un petit peu trop facilement. Ensuite, il y a des actions évidemment pour diversifier, avoir des profils divers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on constitue une liste électorale, on regarde si il y a une représentativité sociale en termes de parcours, en termes d'origine. Peut-être qu'on ne le fait pas encore assez. Et pour répondre à la question sur les académies, parce que moi j'ai en tête Brand New Congress, qui est évidemment une initiative formidable hein, aux États-Unis. Il y a une école qui est en train de se monter en ce moment, qui s'appelle l'école de l'engagement et qui vise justement à faire émerger ces profils un petit peu différents. Et donc oui, voilà, il y a évidemment des initiatives et c'est des points d'attention qu'on a, mais c'est aussi un défi quotidien au sein des partis, ou comme dans toutes les organisations humaines, on a des phénomènes de permanence, de lutte d'influence. C'est le cas aussi dans les entreprises, hein, la question de la représentativité, et d'ailleurs y compris des femmes dans les entreprises, elle n'est pas réglée non plus. Donc c'est vrai que c'est un défi quotidien, mais ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est qu'on est, on est nombreux à essayer de l'apporter au sein de nos partis respectifs.
Merci beaucoup à toutes les trois. On va passer à vos actus, s'il vous plaît. Et on va commencer par toi, Aurélie. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est le programme donc Tous élus, qui est un peu similaire, qui a été lancé justement, pour moi, d'une façon un peu plus originale. Et je voulais rebondir sur un autre point, qui est le point du storytelling. D'ailleurs, moi, j'adore Ada Colau à Barcelone. Ocasio-Cortez, dont j'ai parlé avant. Parce que ces personnes-là, elles sont sur Instagram, elles sont sur les réseaux sociaux et elles me parlent, en fait. Et elles me parlent directement. Jacinda Ardern, qui explique comment elle gère la crise du Covid au quotidien avec les réseaux sociaux. Pour moi, ça, c'est des gens qui viennent me chercher là où je suis. Je ne dois pas faire l'effort d'aller où elles sont, en fait. Et Tous élus, par exemple, pareil, c'est une amie qui me l'a recommandé à travers Instagram en me disant hey, « regarde ce programme ». Justement, c'était le thème, il y a simplement 4% de députés qui sont fils d'ouvriers. Donc, le but, c'est de faire en sorte que les 300 personnes qui vont faire partie de ce programme, qui est gratuit, se présentent pour la première fois de leur vie. Et justement, avec une vraie diversité, parce que pour moi, ce n'est pas quand tu disais « oui, on regarde si nos listes sont diverses ». Non, mais ça, c'est trop tard. Le but, c'est d'aller chercher les gens. Le but, c'est d'aller créer justement une académie en disant « mais on veut autant de musulmans, on veut autant de personnes noires, on veut autant de personnes gays, pour être sûr qu'on les forme et on les source, en fait. » A posteriori, c'est trop tard, en fait. Donc, il y a vraiment, pour moi, une volonté et que je ne vois pas, en tout cas, aucun parti politique autour de moi n'est venu chercher des gens dans mon entourage, et Dieu sait que j'ai un large entourage dans le monde de l'entrepreneuriat social, à part cela, ces initiatives comme ça. Donc voilà, je voulais parler de cette initiative qui est super, qui en 3 mois va nous former aux techniques concrètes de comment créer sa campagne, comment se présenter, comment faire son budget, etc. etc. Et pour moi, c'est ce genre d'initiative qui me rapproche de la politique, beaucoup plus que les partis actuels.
Merci Aurélie. Gabrielle, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Eh ben moi, je voulais parler de mon métier, en fait, mais c'est dommage qu'on puisse pas poursuivre le débat avec Aurélie, parce que c'est hyper intéressant, et je veux quand même dire que je suis d'accord avec elle. L'étape de la liste, c'est l'étape finale, et elle n'est pas suffisante dans la mesure où on doit absolument faire en sorte que les gens soient équipés, et on est... enfin. C'est l'évidence que certains types de profils n'ont pas le même accès, n'ont pas les mêmes ressources pour pouvoir d'eux-mêmes espérer maîtriser tous les codes des partis. Enfin, je vais donner un exemple, du coup, je vais parler de ça plutôt. Sur ce qu'on fait en amont. Pour les femmes à la Fédération de Paris du PS. Même si, comme je le disais, on a la parité sur les listes, mais ça ne veut pas dire non plus il y a des élections, il n'y a qu'une seule personne. Voilà, les élections législatives, il y a une personne. Donc, il n'est pas question de parité sur les listes. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inhibition pour les femmes à se présenter. Là, typiquement, sur les régionales, on a constaté qu'il y avait eu beaucoup plus d'hommes candidats au sein du PS que de femmes. Donc, on a eu plus de difficultés à constituer la liste pour les femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, par exemple, hein, c'est simplement un exemple, mais on adapte la façon dont on tient les débats. Et en fait, c'est des règles qui sont hyper simples, qui peuvent paraître banales, mais qui en fait changent complètement le cours d'un débat. Quand on chronomètre et qu'on alterne la parole entre les femmes et les hommes, on voit que ça prend pas du tout la même tournure, parce qu'il y a des expressions qui peuvent se faire qui ne se seraient pas faites auparavant. Si on le fait pas, on a en gros 80% de prise de parole par des hommes en termes de temps. Et quand on alterne, et ben ça prend une tournure complètement différente, et ça permet aussi de lutter contre l'inhibition. Enfin, c'est une forme d'empouvoirement, en fait, de règles qui permet ça. Et donc, moi, je crois beaucoup en fait aux règles institutionnelles. En plus de tous les dispositifs de formation et en plus des initiatives intéressantes comme Tous élus, je crois que les partis doivent mettre en place les règles qui permettent qu'on lutte contre l'inhibition et qu'on lutte contre le sexisme, qu'on lutte contre tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une représentation fidèle à ce qu'est notre pays aujourd'hui. Donc, ça passe aussi par des règles institutionnelles. On fait évidemment toutes nos campagnes en ligne, on va chercher des profils. Je pense à Anne Hidalgo à Paris, qui a fait élire l'ancien, dans le 20e, Éric Pliez, qui était président du SAMU social, qui a fait élire Audrey Pulvar, mais c'est un profil un petit peu différent, mais qui allait chercher évidemment des associatifs, qui allait chercher des personnes pour ce qu'elles allaient. Je pense aussi à l'ancienne présidente d'Amnesty International, qui est élue aujourd'hui sur nos listes à Paris. Donc on va chercher évidemment aussi ces profils-là, et on va sur les réseaux sociaux, et voilà. Et pour autant, j'adore aussi la mère de Barcelone, et je pense que voilà, ce type d'initiative doit pouvoir se conjuguer avec une vie partisane qui, derrière, il faut quand même en avoir conscience. Quand on fait une campagne, il faut être financé. Brand New Congress aux États-Unis, ils sont allés chercher des profils différents, mais derrière, ils se sont présentés en tant que démocrates. Donc voilà, je pense qu'il faut absolument réussir à marier les deux, mais surtout sans exclusif, quoi.
Merci Gabrielle. Audrey, de quoi voulais-tu nous parler ?
Alors moi aussi, je vais changer, parce qu'au départ, je voulais vous parler de finances éthiques et responsables pour faire un clin d'œil à Gabrielle. Et
parce moi aussi.
Dans ma propre délégation à la ville, c'est vrai que je réfléchis comment on peut financer la transition écologique et l'action des collectivités. En permettant notamment aux citoyens de pouvoir utiliser leur épargne dans ce sens positif, plutôt que de passer par les marchés financiers internationaux dont on sait tous les dégâts qu'ils font. Mais en fait, je préfère réagir sur le débat qu'a lancé Aurélie. Et pour compléter, je dirais que évidemment, c'est très important toutes ces actions volontaristes qui vont auprès de personnes qui sont loin du monde politique. Pendant la campagne électorale pour la ville de Lyon, c'est vrai qu'on a fait des réunions non mixtes entre femmes, et ça nous a beaucoup renforcé dans notre légitimité, notre confiance en nous pour briller des responsabilités importantes. Il y a encore du travail là-dessus. Je ne l'ai pas dit en me présentant tout à l'heure, mais comme on a tous plusieurs identités, et moi je suis aussi une personne en situation de handicap parce que je suis tétraplégique, et voilà, je réfléchis avec quelques autres personnes élu en étant en situation de handicap à un collectif, parce que c'est vrai que 5 à 10% de la population est touchée par un handicap et qu'on a très peu de représentation chez les élus. Mais je pense que pour attirer tout type de personnes, hommes, femmes, quelle que soit l'origine, le quartier de résidence, l'appartenance, vers la gestion de la chose publique, il faut concrètement permettre aux habitants de s'impliquer dans la vie publique. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on va lancer fortement sur la ville de Lyon. C'est ça mon thème, c'est comment renforcer la participation citoyenne avec les initiatives comme, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat qui était une très, très belle initiative. Et on a vu à quel point les citoyens tirés au sort, donc issus de tout type de milieu, se sont impliqués, intéressés et ont fait des propositions. Donc, c'est ce type de concertation qu'on va mettre en place à Lyon, avec également une logique qu'on appelait le baromètre du bien-être, où on interroge vraiment la population pour savoir ce qui est important pour elle. Et ces objectifs qu'ils nous donnent complètent les objectifs que les élus se sont dotés dans leur programme politique pour lequel ils ont été élus, c'est-à-dire enrichir la démocratie représentative par plus de démocratie directe. Et puis, troisième exemple, c'est le budget participatif qui permet vraiment aux citoyens, aux citoyennes, enfin aux habitants même plutôt, de proposer des projets, de les voir réalisés par la collectivité. Parce qu'en fait, si les personnes ne vont pas voter ou ne s'impliquent pas, même pour devenir élus, c'est souvent qu'ils se disent « bon, à quoi bon, c'est pas mon univers, etc. etc. » Or, si on fait appel à eux pour gérer des communs, pour faire des propositions, et que derrière, ils voient que ça se réalise comme ils l'ont proposé, ou en tout cas qu'ils ont été entendus, je pense que petit à petit, ils feront le pas vers la responsabilité politique. Voilà, petit appel à la participation citoyenne.
Merci beaucoup à toutes les trois pour ces débats très intéressants, riches et passionnants.